Effectivement, le BYOD pour commencer, Bring Your Own Device. Alors ça, c'est une tendance bien évidemment qui est très inhérente à l'évolution du marché des terminaux, hein, qui a été extrêmement notable sur les 10 dernières années, aussi notable d'ailleurs que l'accroissement du taux d'équipement de nos étudiants. C'est passé par différentes initiatives, mais aujourd'hui, on peut admettre effectivement que les étudiants sont assez massivement équipés. Et donc la tendance qui apparaît, c'est ce fameux BYOD. Alors, cette tendance, elle revêt une réalité qui est assez différente en fonction des contextes nationaux, hein. Elle a été, par exemple, très peu présente. En tout cas, j'ai pu très très peu l'observer lors de visites d'universités japonaises il y a quelques semaines, où là, les étudiants ne viennent pas avec leur équipement. En fait, ils utilisent des micros qui sont mis à leur disposition dans différents lieux de vie de l'université, mais ils ne viennent pas avec leur équipement propre. Par contre, aux États-Unis, l'actualité est telle que le BYOD est apparu dans le top 10 des sujets d'actualité IT qu'EduCause liste chaque année. Donc là, sur 2013, le BYOD figurait dans le top 10. Alors, ce BYOD, il a été traité sous différents angles en fait pendant la conférence que je vais vous relater en m'arrêtant sur deux termes. Le premier, c'est le terme device. Et ce terme device, on va même le mettre au pluriel, puisqu'évidemment, un des enjeux du BYOD, c'est de faire face à l'hétérogénéité des matériels que les étudiants peuvent emmener sur le campus. Alors, on a quelques exemples qui sont là, hein, certains classiques, d'autres un petit peu moins. Mais en tout cas, ça correspond à l'hétérogénéité qui est celle de l'équipement des étudiants, même si certaines plateformes sont plus massivement installées que d'autres. En tout cas, on est dans une configuration qui est multiplateforme au sens matériel du terme, et on est sur un plan plus technique dans une configuration qui est multi-système d'exploitation, multi-OS. Je sais que les DSI qui sont dans la salle reconnaîtront tout ce que ce terme revêt. Donc, le premier angle en fait de traitement du BYOD pendant la conférence, ça a été de faire face à cet enjeu-là du multiplateforme, du multi-OS. Comment absorber l'arrivée de ces terminaux fonctionnant très hétérogènes sur les réseaux des campus. Le deuxième terme qui a servi de point d'entrée, c'est home, c'est venir avec son propre équipement. Et qu'est-ce que ça veut dire de venir avec son propre équipement? Ça veut dire que finalement, les responsables techniques des universités, tous les personnels des DSI n'ont pas, je dirais, de point d'accroche sur les configurations réseau des terminaux qui arrivent sur le campus, sur les aspects sécurité de leur système et sur le versionning, notamment des applications qui sont installées dessus. Donc ça, c'était vraiment le deuxième point sur lequel les discussions ont été menées au-delà d'hétérogénéité matérielle et OS, c'était faire face au fait qu'on ne puisse pas avoir la main sur la configuration proprement dite des machines. Alors, des éléments de réponse qui ont été apportés. Le premier, c'est ce qui a été relaté comme le Mobile Device Management. Donc là, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché, certains qui sont rattachés à des plateformes précises, d'autres qui sont plus œcuméniques. En tout cas, la plupart des universités qui se sont lancées dans une démarche de BYOD, très clairement, se sont appuyées sur ce type d'outils-là. J'ai essayé un petit peu de réfléchir à la transposition que ça pourrait prendre en France. Bah, je crois qu'en ce moment, on discute beaucoup de cloud computing. C'est notamment le cas à Paris, me semble-t-il. Très clairement, on est là je dirais, dans un contexte qui, à mon avis, serait très favorable pour mettre en place ce type d'outils. Donc au sein d'un cloud et répondre à cette problématique de l'hétérogénéité. Concernant la préoccupation de l'intégration sur les réseaux, il y a plusieurs aspects qui ont été abordés. Alors, la densité des réseaux proprement dit, je vais revenir tout de suite après, la qualité de service et l'accès unifié, plus globalement la facilité d'accès au réseau. Alors, si je reviens un instant sur l'aspect densité et qualité de service, si on se projette à nouveau dans le contexte français, j'ai quand même tendance à dire que sur les 10 dernières années, au travers des différents plans d'équipement Wi-Fi que nous avons eu sur nos campus, il y a un existant qui est tout à fait notable. Il y a certainement des choses qui pourraient être mises en place en termes de QoS, hein. Là, je me retourne encore vers mes collègues DSI, mais en tout cas, il y a un existant qui est notable. Sur la partie accès unifié au réseau, eh ben là, on a un contexte qui est encore plus favorable en France, notamment au travers de technologies telles que Shibboleth, Là, encore une fois, j'ai extrapolé ça à ce qui a été mis en place dans le contexte que je connais le mieux, c'est-à-dire celui de l'UNR Paris-Île-de-France, c'est le portail EduSpot, où en fait, là, un étudiant qui vient avec sa tablette ou n'importe quel autre terminal qui lui appartient va pouvoir se connecter n'importe où sur un campus d'Île-de-France, même si ce n'est pas le campus de son université de rattachement. Donc là, on est vraiment dans une logique d'accès unifié au réseau, et donc dans ce contexte français, ça nous est extrêmement favorable puisque, comme vous le savez, toute la communauté a adopté cette technologie chibolette. Voilà. Alors, si tant est que ces contraintes qui ont été listées pendant la conférence EduCause soient donc traitées, alors, par exemple, au travers des hypothèses que je viens d'émettre, évidemment, ben là, on peut se projeter dans ce que peut être la traduction de ces usages du BYOD. Alors là, je vais vous montrer quelques photos qui ont été prises dans une bibliothèque de UCLA à Los Angeles, une bibliothèque qui avait été remise à neuf il y a quelques années, je crois il y a une quinzaine d'années me semble-t-il, elle était assez récente, où là en fait vous avez partout des îlots collaboratifs tels que ceux-là, on appelle ça des tables collaboratives. C'est ce type de mobilier, d'ailleurs, vous pouvez voir également dans le Learning Center de Paris Assas, hein, Paris 2 Panthéon Assas. Les étudiants viennent avec leur propre matériel, ils se connectent sur le réseau, ils téléchargent des ressources, ils ont accès à certaines applications, et en tout cas, ils travaillent, je dirais, dans un mode totalement collaboratif, encore une fois, avec l'équipement qui est le leur. Donc là, ça, une nouvelle modalité de travail qui change un petit peu de ce qu'on a aujourd'hui. Voilà pour le BYOD. Alors, un point de conclusion que je voudrais aborder quand même, c'est que les discussions vraiment à EduCause, elles se sont, j'insiste là-dessus, focalisées sur ces aspects assez techniques que sont l'hétérogénéité des systèmes, l'hétérogénéité des plateformes et cette intégration dans le réseau, beaucoup moins sur le plan applicatif. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement parce que finalement, ce qui peut être intéressant pour un étudiant qui va venir avec son terminal, bah, ça serait de retrouver, où qu'il soit, son bureau virtuel, je ne sais pas, appelons-le comme ça, avec sa suite applicative et à laquelle il accéderait en ligne. Mais ça, c'est un aspect qui a été, je dois le dire, beaucoup moins traité dans les ateliers au niveau d'EduCause. Pour faire le lien avec la deuxième intervention, on vient de voir donc l'exemple de la bibliothèque de UCLA qui avait vraiment une démarche très innovante en termes d'espace d'apprentissage. Donc passons là-dessus si vous le voulez bien. Je répondrai aux questions sur les deux interventions tout de suite après. Alors ça se regroupe dans le terme « learning spaces hein, » qui est utilisé dans la littérature anglo-saxonne. Alors l'actualité qui a été celle des « learning spaces » à EduCause, c'était la mise en place d'un Learning Spaces Rating System, qu'ils appellent le LSRS. Alors, ça, c'est le fruit, alors c'est encore une version de travail, hein, ils sont une version bêta de ce système de notation, mais c'est le fruit du travail d'un groupe thématique. Hein. Mariana en parlait tout à l'heure quand elle vous évoquait la structuration d'EduCause. Effectivement, il y a différents groupes thématiques, et il y en a un qui est tout à fait focalisé sur les aspects aménagement et Learning Spaces. Et donc, ils ont présenté la version bêta, quasi finale semblerait-il néanmoins, de ce système de notation. Alors, je voulais vous en parler parce que moi, je l'ai trouvé très intéressant sous plusieurs aspects. Le premier d'entre eux, c'est que souvent, quand on parle d'aménagement un peu innovant des espaces de travail, on va aborder des aspects qui sont ceux du mobilier, de l'aménagement physique et de l'équipement informatique et réseau. Très bien, c'est un point d'entrée qui est évidemment tout à fait évident. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le système de notation dont je vais vous parler tout de suite après, c'est qu'on intègre la partie institutionnalisation, donc l'intégration de cet espace dans la politique globale de l'établissement, et surtout la mise en place d'une pédagogie qui soit suffisamment innovante pour tirer parti de ces nouveaux espaces d'apprentissage. Donc ça, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant de le placer dans le système de notation que je vais vous présenter tout de suite. Sachez que ce système, en fait, il se base sur 6 sections avec plusieurs critères dans chacune d'entre elles, et il y a 63 crédits, comme les crédits ECTS, qui peuvent être fléchés sur tel ou tel point que vous avez rempli ou non, et après, donc, à vous de juger quelle est la pertinence de votre learning space selon, en tout cas, ce système de notation. Alors, pour vous le détailler un tout petit peu, la première section, vous le voyez, revêt vraiment cet aspect institutionnalisation puisqu'elle ne traite que de l'intégration dans le contexte stratégique et politique du campus. Donc là, on ne parle pas d'informatique, de mobilier ou quoi que ce soit, c'est comment ce learning space est positionné dans la politique de l'établissement. Deuxième section, le planning et les process. Donc là, ça revient à dire qu'effectivement, cette salle est utilisée parce que l'idée, c'est pas non plus de mettre en place un démonstrateur qui ne sert à rien. Donc, c'est que ça soit intégré dans une démarche d'utilisation très courante. La troisième section concerne le support et les opérations. Là, encore une fois, ne pas se retrouver avec une salle, certes, est très bien équipée, mais qui n'est pas ouverte le matin, vous avez besoin d'une maintenance sur tel ou tel équipement, il n'y a personne. Là, encore une fois, on rentre dans l'intégration d'un dispositif global d'établissement. Donc, vous voyez que là, ces trois premières sections sur les six, elles ne parlent pas d'aménagement, elles ne parlent pas d'informatique. C'est des choses qui se placent à un niveau un petit peu plus en hauteur, plus transversal. Section 4, là, on va rentrer dans les aspects qualité environnementale. Donc, ce système de notation, LSRS, intègre tout ce qui concerne la luminosité, l'acoustique, la gestion de la température, même dans l'espace de travail. La section 5, alors là, on rentre dans ce qui est d'habitude communément admis comme étant le vif du sujet, c'est l'aménagement et le mobilier, hein, comment on va créer de l'espace avec suffisamment de mètres carrés par participant, leur donner la possibilité de collaborer facilement. Vous avez vu tout à l'heure l'exemple de la bibliothèque de UCLA, où on avait vraiment ces tables qui catalysent la collaboration, hein, de façon extrêmement, extrêmement claire. Et enfin, la dernière famille de critères, la section 6, qui, elle, intègre tout l'aspect technologique et outils informatiques. Donc voilà comment est organisé ce système de notation actuellement. Encore une fois, il est dans une phase de travail qui est certes très avancée, mais qui peut être amené à évoluer encore dans les prochaines semaines. Quelles sont les perspectives par rapport à tout ça? Alors, j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait faire, nous, au retour de la mission. Alors, la première chose, évidemment, c'est qu'on pourrait déjà traduire ce système de notation en français et surtout l'adapter au contexte français, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que notamment dans la section qui traite les aspects environnementaux, il y a des références à des normes américaines qui, évidemment, donc n'ont pas lieu d'être ici. Donc, il y aurait peut-être cette adaptation à faire, mais plus globalement, en tout cas, une traduction du document en français. Là, je vais parler encore du contexte que je connais le mieux, qui est celui de l'Université numérique Paris-Île-de-France. Il s'avère, et certains d'entre vous le savent pour être largement impliqués, qu'on a une offre de formation au numérique qui s'appuie sur six centres qui sont déjà en place. La perspective que je vois par rapport à ça, elle est intimement liée au fait qu'on va ouvrir trois nouveaux centres, nous, en fait, cette année, enfin l'année prochaine, pardon, sur 2014, avec chaque fois 4 à 6 mois d'écart. Donc, on commencera au mois de mars. Et très clairement, avant d'aller à la conférence EDUCAUSE, nous avions déjà beaucoup planché avec mes collègues, dont certains sont présents ici, sur une nouvelle forme que pourraient avoir ces centres de formation. Ce qu'on a actuellement en place, dont on est très content, et j'espère que c'est également le cas de nos participants, sont néanmoins plus proches d'une salle de TD traditionnelle que de ce que vous avez vu tout à l'heure à UCLA. Et très clairement, dans les trois options que nous avons mises sur 2014, on veut se diriger vers quelque chose de beaucoup plus innovant, donc quelque chose qui ressemblerait beaucoup plus à un learning space. Donc, moi, la deuxième perspective que je vois là-dessus, c'est très clairement d'opérer une convergence entre les préconisations de ce document-là et ce qu'on va mettre en place sur 2014 dans nos trois nouvelles salles. Et les résultats de cette hypothétique convergence, je les mettrai bien évidemment à la disposition de la communauté. Merci beaucoup.
Par rapport à UCLA, c'est vrai qu'il y avait aussi un espace de prêt d'équipement qu'il faut doter. C'est parce que
c'est vrai.
Tout le monde n'a pas son own device à hauteur. Et
Absolument.
Même, donc ça faisait de la gestion de parc un peu compliquée pour eux.
Ben, c'est tout l'enjeu qui a été évoqué, en fait.
Autrement, là, sur la grille, c'est vraiment intéressant aussi dans le cadre de learning center qui peuvent se monter, je pense entre autres à Paris-Saclay. Donc cette grille, elle est vraiment intéressante. Et,
Non, mais
si quelqu'un
ça,
de chez nous peut participer à ça.
Ouais, mais je vous dis, il y a le travail de traduction, c'est simple, hein, ça c'est pas. Par contre, c'est l'adaptation.
Traduction, mais d'adaptation.
Voilà, c'est l'adaptation, comme je disais, par rapport aux normes françaises.
Tu vois, parce que je trouve que les premiers critères, là, le 1, c'est pas cher payé, quoi. Hein. Je crois qu'il y a 6 crédits.
Alors, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, parce que la version que vous avez vue, avec la répartition des crédits, c'était celle avant l'atelier auquel j'ai participé là-bas, et je crois que c'était un des points sur lequel il y a eu le plus de discussions, effectivement. Okay. Enfin, en tout cas, tout le monde, et notamment mes collègues américains, s'accordaient à dire que tout le succès qu'on peut espérer de ce type d'initiative, il se place autant sur la partie stratégique et intégration dans la politique de l'établissement que sur l'aspect logistique et matériel, hein, ça c'est très clair. Hein.